Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani, il est 18h, bonsoir et bienvenue, voici les grandes lignes de ce journal. Les autorités scolaires maintiennent la date du 4 novembre 2024 pour la rentrée scolaire. Des mesures ont été prises par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes pour respecter cette date. La rédaction s'intéresse aujourd'hui au bégaiement. De nombreuses personnes de tout âge souffrent de ce trouble de langage. Est-ce une maladie? La réponse dans cette édition. Sport football, CAN éliminatoire Maroc 2025. Des doutes planent sur la qualification du Mali après leur match nul contre la Guinée-Bissau. Mais des supporters à Bamako et à l'intérieur du pays pensent que rien n'est encore perdu. Voilà pour le sommaire de ce journal qui vous sera présenté par Assetou Kanti. La mise en onde est assurée par Sédou Ndaou. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comment faire pour respecter la rentrée des classes le 4 novembre prochain? Cette question était hier au cœur des échanges du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La rencontre présidée par le chef du gouvernement a fait des propositions et des fonds ont été octroyés pour leur mise en œuvre. Mamadou Samasekou pour plus de détails.
Selon le ministre de l'Éducation, son département a reçu du gouvernement un montant de 600 millions de nos francs. Un montant qui va permettre d'exécuter des travaux pour, entre autres, libérer les écoles occupées et réparer des dégâts subis dans certaines écoles à cause des inondations. Au dire du ministre Amadou Sissavani, il s'agit surtout de remettre en état des classes et des latrines. En collaboration avec des académies qui vont établir leurs besoins, des actions seront menées pour que tout soit fin prêt avant le rendez-vous du 4 novembre. Il précise également que des directives ont été données au gouverneur qui préside les comités de crise en région pour faire libérer des écoles occupées. Le chef du gouvernement a par la suite demandé aux membres du comité de faire en sorte que des actions qui seront menées servent d'expérience dans l'avenir, vu les effets du dérèglement climatique. Choguel Koukala Maïga a aussi demandé à l'ensemble des Maliens de faire de la situation des enfants leur préoccupation.
Et la Fédération nationale des associations des parents d'élèves s'est dit rassurée par cette annonce du gouvernement de maintenir la réouverture des écoles à la date du 4 novembre 2024. Passé ce délai, ses responsables indiquent que le pays risque d'accuser du retard par rapport à l'exécution du programme scolaire. Une inquiétude partagée par le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Toutefois, ses responsables se disent sceptiques quant à l'effectivité de cette décision. Ali Sissé.
Pour Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali, l'école doit nécessairement rouvrir ses portes. Cela afin de pouvoir écouler le programme scolaire et de donner plus de crédit au diplôme d'État.
Donc nous sommes tenus par ces impératifs-là. On est obligé de faire un choix. Ou alors l'école s'écroule, ou nous prenons les dispositions idoines. La date du 4 novembre est tenable. Il faut maintenant trouver des mesures d'accompagnement. Il est grand temps que le gouvernement s'assume et prenne des décisions courageuses pour que nos écoles ne soient pas perçues comme des refuges en cas de sinistre ou de catastrophe naturelle.
Cet avis est plus ou moins partagé par le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Moulaye Koniba Koulibaly, membre du syndicat, exprime son scepticisme par rapport à l'ouverture des écoles sur l'ensemble du territoire national.
Il ne suffit pas seulement de construire des hangars. Il y a certains villages dans lesquels les enfants sont obligés de traverser des marigots pour aller à l'école. Avec la montée des eaux, le risque est très grand. En tout cas, j'ai des doutes. Mais si on ne parvient pas à rentrer à partir du 4 du mois prochain, ça va avoir également des conséquences sur le temps d'apprentissage et sur tous les programmes.
Initialement prévue pour le 1er octobre 2024, la réouverture des écoles a été reportée au 4 novembre 2024. Le gouvernement avance comme raison l'état de catastrophe naturelle.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte X. Le bégaiement est un trouble de l'articulation fréquent chez les personnes de tout âge dans notre société. Les origines de ce handicap restent mal connues. Les médecins orthophonistes expliquent une altération de la fluidité verbale normale. Ce trouble, bien que naturel, semble être gênant pour des personnes qui en souffrent. Reportage de Mahouloud Ag Mohamed.
Moussa Fané, âgé de la vingtaine, souffre de troubles de langage depuis son enfance. Il dit avoir souffert longtemps de ses handicaps car il subissait de moqueries de son entourage. Mais affirme aujourd'hui franchir ses caps.
Depuis tout petit, je bégue, mais je n'ai pas honte. Mais quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup de monde, quand je parle, les gens rient. Et c'est le seul moment où j'ai vraiment honte. Mes amis avec qui je traîne ont compris mon handicap et ne se moquent plus de moi.
Le bégement est-il une maladie ou pas? Les médecins et spécialistes orthophonistes rassurent que ce n'est pas une maladie, mais plutôt une interruption dans les rythmes de la parole. Docteur Akpenin Deborah indique que multiples facteurs pourraient contribuer à son développement et impacter la personne qui en souffre.
C'est un trouble d'élocution qui est fréquent chez les personnes de tout âge. Ce trouble se manifeste par une altération de la fluidité verbale normale chez une personne et un mauvais enchaînement des mots ou des sons dans le discours.
L'orthophoniste affirme qu'il n'existe pas de traitements médicaux contre les bégements. Cependant, il existe des techniques d'accompagnement pour venir à bout du bégement ou au moins maîtriser ces troubles de la parole.
Autre sujet, la caravane africaine pour la justice africaine a été lancée hier à Bamako. Cette activité en faveur de la protection de l'environnement va durer 3 jours. Elle se tient au moment où le Mali prépare sa participation à la COP29. L'initiative est de Oxfam en collaboration avec des organisations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Compte rendu de Mohamed Babakunta.
Cette caravane sillonnera toutes les grandes villes du Mali. Son objectif, selon Mamadou Haïdra, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, est de valoriser les mécanismes endogènes d'adaptation.
Les changements climatiques sont une triste réalité et nous affectent à tout point de vue. Bien que le continent africain contribue très peu en termes d'émissions de gaz à effet de serre, reste le continent le plus exposé et le plus vulnérable à cause de son faible niveau de développement.
La lutte contre les changements climatiques est une affaire de tous. C'est ce que soulignent des participants à cet événement.
Quand on parle de l'environnement, ça concerne tout le monde. Ça parle aussi de la santé si l'environnement est bien propre. Ça évite les maladies.
Le climat, ce n'est pas un combat du gouvernement ou des autorités. Le combat du climat, ça nous interpelle tous. On nous invite tout le monde vraiment à rejoindre la caravane les 2 jours prochains parce que c'est dans toutes les grandes villes du Mali.
Cette caravane consacrée à la justice climatique se tient au moment où le Mali fait face à de nombreux cas d'inondations.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Je vous l'annonçais dans les titres, les doutes se sont empilés sur la qualification du Mali pour la CAN Maroc 2025 après le match nul 0-0 essuyé hier contre la Guinée-Bissau. Mais de Tomignan à Mopti, en passant par Bamako et Tombouctou, des supporters déçus par la performance des Aigles du Mali pendant ce match gardent toujours espoir. Ils s'expriment au micro de Mariam Koulibaly avec l'appui de nos correspondants et c'est dans la rubrique « On en parle ».
D'abord, il faudra s'imposer contre l'Eswatini en première journée, en attendant la Mozambique pour le tout dernier match de nos qualifications.
En tout cas, pour le moment quand même, la manière dont nos gars jouent là, ça c'est pas du tout convaincant.
Je vis à Sévaré. Je pense qu'on a encore une chance. Nous avons 8 points avec un peu d'effort. On pourra se qualifier.
Nos joueurs doivent redoubler d'efforts, ne pas baisser les bras et persévérer.
Ils se disaient que victoire ou pas, ils allaient se qualifier. Sinon, depuis la première mi-temps, on pouvait gagner. Nous avons le même nombre de points que la Mozambique et c'est très décevant.
Il y a des femmes qui ne sont jamais prêtes quand il s'agit de sortir. Elles ont toujours quelque chose à faire à la dernière minute. La chronique Zoom sur fait un focus sur elles et c'est avec Mariam Koulibaly.
Attendez-moi, j'arrive, j'ai presque fini. Voilà le slogan des dames qui ne finissent jamais de se préparer. Safia en fait partie. Le matin, c'est toujours des disputes avec son mari Oussou, car madame n'est jamais prête à l'heure. Oussou la gronde. Safia, pourquoi tu n'es jamais prête? Safia décide un jour de surprendre Oussou, son mari, en essayant de s'apprêter tôt et de l'attendre cette fois-ci. Ce que Oussou ne sait pas, Safia l'attendait dans la voiture. Une fois devant leur véhicule, il aperçoit Safia assise devant. Surpris, Oussous Eklata, tu as battu le record aujourd'hui. Chapeau à toi. Mais la joie de monsieur n'est que de courte durée. Au moment de prendre la route, Safia se rend compte qu'elle a oublié son téléphone. C'est le retour à la case départ pour le pauvre Oussous. De Safia, il y en a beaucoup. Il est difficile pour ces personnes de respecter les rendez-vous. Même en faisant des efforts, comme notre chère Safia, pour montrer sa bonne foi, c'est toujours la même chose. Comme quoi, l'habitude est une seconde nature.
Tout à fait, Mariam Koulibaly. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant, 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Le Grand Dialogue, c'est dans quelques minutes. Bonsoir, Imran Akilou-Maïga. Ce soir, vous allez aborder quel sujet ?
Bonsoir à c'est tout. Ce soir, nous allons parler du football, des aigles à manque de réalisme avec trois invités. Sur ce plateau, Drissa Sangaré, journaliste et consultant sportif, Drissa Nyono, chroniqueur sportif et Adama Maïga, journaliste sportif.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Tout de suite, le magazine. Le cancer du sang au Mali reste parmi les défis à relever sur le plan sanitaire. Malgré les nombreuses sensibilisations et le soutien du gouvernement et ses partenaires aux malades, la maladie continue de faire des ravages. Au Mali, plus de 70% des cas du cancer du sang diagnostiqués perdent la vie dans l'année du diagnostic ou une année après. La capitale Bamako est pour le moment le seul endroit où la prise en charge est effective. Quel bilan faire du plateau sanitaire dans le traitement du cancer du sang au Mali? La réponse dans ce magazine santé réalisé et présenté par Adama Amadou Aïdara.
Selon des statistiques de Globocan, une organisation qui donne des statistiques sur le cancer, au Mali, le cancer du sang touche à peu près 2400 femmes par an. Cependant, le CHU du Point G, principal centre hospitalier dans le traitement de la maladie, accueille moins de 500 malades par an. Dr Sidibé Fatoumata Matogoma est médecin oncologue à l'hôpital du Point G.
Notre service, par an, nous envoie à peu près 350 à environ 450 patients. Les 2400 patients, c'est tout le Mali. Et malheureusement, comme la prise en charge du cancer ne se fait qu'à Bamako, on ne voit pas tous ces patients-là. Beaucoup ont du mal à tout abandonner, à laisser leur région, leur village pour venir s'installer à Bamako pour le traitement du cancer.
Celles qui acceptent de faire le déplacement ont soit une famille d'accueil ou soit sont prises en charge par une ONG. Cette dame rencontrée à Bamako est là depuis 10 mois et sous couvert d'anonymat, elle affirme quelques difficultés liées à son déplacement.
Tombouctou, il n'y a pas une radio de mammographie. Quand on réside dans une région, il faut te déplacer pour aller dans la capitale et rester un long moment. Ce n'est pas du tout facile en dehors de sa famille. C'est un traitement qui prend trop de temps. Ce qu'on souhaite, c'est que pour toutes les régions, il faut une radio de mammographie, un médecin oncologue pour éviter le déplacement.
La prise en charge du cancer du sein pour les régionaux est problématique. En plus du manque de plateau sanitaire pour faire face à la pathologie, les femmes atteintes du cancer du sein arrivent généralement dans les centres de santé à un stade déjà avancé. C'est avec un cœur meurtri que les médecins de ces localités assistent au refus de certaines malades de rejoindre Bamako pour le traitement pour faute de moyens. Professeur Tidjani Traoré, chef de service gynéco de l'hôpital régional de Ségou.
Ils viennent déjà avec les diagnostics évidents où on ne peut pas faire grand-chose, donc c'est vraiment un problème. Et hormis ça, si on n'a pas de spécialistes et même les plateaux techniques pour la prise en charge sur place. Quelquefois, il y a des patients, on les réfère compte tenu du fait qu'ils n'ont même pas de connaissances à Bamako. Ils démissionnent carrément et disent non, on va rentrer à la maison, aller se soigner traditionnellement. Bon, ça nous fait un peu mal au cœur, mais on est un peu inefficace devant la situation.
À souligner également qu'à Bamako, où la prise en charge est faite, le nombre de spécialistes est minime. À cela s'ajoute la disponibilité d'une seule machine de radiothérapie pour tous les malades. Dr Sidibé Fatoumata Matogoma.
Les oncologues médicaux, on est au nombre de 6. Les oncochirurgiens, ils sont 3. En radiothérapie, ils sont 4. Il y a une cinquième qui est venue récemment. La chirurgie est largement accessible. La radiothérapie est disponible seulement à l'hôpital du Mali. On a un seul appareil qui est actuellement en rénovation, qui est en panne depuis 2022. Quant à la chimiothérapie, les produits sont disponibles. Le patient paye tout 100%.
L'association Solidarité et Soutien au malades du cancer du sein demande une amélioration dans la prise en charge de cette maladie devenue un problème de santé publique. Fatimata Diawara, présidente de l'association et survivante du cancer.
Il y a un petit rhum confirmé, il y a des produits qu'on met dedans. Il y a un produit, il fallait être à la pharmacie avant 6 heures. Si vous ne venez pas tôt, vous trouverez que le produit est fini. Le cancer n'est pas soigné à un seul endroit. La maladie arrivée à un stade, vraiment ça va être difficile pour la personne atteinte de cancer de faire tout ce déplacement. Il faut qu'on revoie la prise en charge du cancer.
Médecins et malades sont unanimes. La meilleure manière de se prémunir du cancer du sein reste l'autopalpation et le dépistage.